sommes vendredi 16 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangou au micro Nafis Adam Sirfo. Au sommaire, célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain avec pour thème l'environnement numérique et les droits des enfants. Dans ce journal-là, vous entendrez la directrice de la protection de l'enfant de Gaïa qui nous parle de l'impact de l'utilisation des téléphones portables par les enfants. À Dosso, les femmes du quartier de Mandjokwara s'intéressent davantage à la planification familiale. Les responsables du centre de santé l'ont confirmé au micro de Studio Kalangou. Dans le magazine de cette édition, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Niamey s'exprime sur les différents droits de l'enfant. Nous débutons ce journal avec cette brève. Suite aux difficultés d'émission des visas par certains chefs d'agence de pèlerinage et en concertation avec ces derniers et le transporteur, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koro a décidé de suspendre les opérations de convoyage de la compagnie Max Air jusqu'au dimanche 18 juin. C'est un communiqué du Koro qui l'annonce. Par ailleurs, le Koro demande aux chefs des groupes d'agences concernés de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour émettre à tous les visas d'ici le délai de reprise des vols. La journée mondiale de l'enfant africain est célébrée ce jour 16 juin avec pour thème cette année les droits de l'enfant dans un environnement numérique. La coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant a organisé ce matin à Niamey une conférence débat autour du thème enjeux et défis liés à l'accès à l'utilisation de l'outil numérique par les enfants, rôle et responsabilité des médias dans la protection des droits de l'enfant. Écoutons Sidi Koumoussa, coordinateur du CONIDA, au micro de
Dans le cadre de l'utilisation et de l'accès des enfants au numérique, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Et il est bon que nous les retracions pour que dans ce îlot de défis-là, vous puissiez également à votre tour voir quelle est la partition que vous pouvez jouer. Aujourd'hui, quand on sait bien utiliser son portable, c'est un laboratoire. Dans le sens où aujourd'hui, on a tout, mais à côté de cela, il y a également l'autre face de la médaille où c'est les cybercriminels, malheureusement, qui ont le vent en poupe. Donc, c'est tous ces risques-là que nous voulons quand même que les médias vous le sachiez et que vous le fassiez comprendre également aux parents. Mais le plus grand défi, c'est que vous devrez faire comprendre aux parents qu'en tant que première chaîne de protection des enfants, il leur incombe l'obligation et la responsabilité de suivre également les portables de leurs enfants. Nous estimons que, en tant que journaliste, vous avez un rôle immensément important de la dignité des enfants, dans la préservation de l'intérêt supérieur des enfants, mais aussi dans la promotion de leurs droits.
Justement, dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux sociaux occupent donc une place centrale de la vie des jeunes. Ces plateformes virtuelles offrent de nombreuses opportunités, mais aussi causent de sérieux problèmes comme le harcèlement en ligne dont souffrent certains jeunes. Cela peut avoir des répercussions sur leur éducation, estime la directrice de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Gaïa. Écoutons Madame Kalala Amina, interrogée par Belkissa Sidi.
Tu peux laisser un portable simple où l'enfant peut vous appeler en cas de danger. Ça, c'est peut-être l'avantage que je peux dire. Mais les parents qui achètent des portables Android à leurs enfants, vraiment, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais il y a des enfants, par exemple des filles, c'est à travers des garçons qui leur font la cour. Donc, les jeunes garçons, ils achètent des portables, ils mettent à la disposition des filles-là pour les avoir à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est vraiment un grand danger. Et le grand danger, c'est que les enfants apprennent beaucoup sur l'Internet, sur les réseaux, les films pornographiques, tout ça là. Donc, les téléphones portables ont beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. C'est les juridictions compétentes qui sont à même d'apporter des solutions par rapport au harcèlement qui se font en ligne et autres là. Et ceux qui sont victimes, souvent, ils n'informent pas les parents. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'informer les parents en cas de harcèlement ou en cas de trucs sur Internet.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a entamé ce matin une visite de travail de 3 jours à Zinder. L'objectif est d'évaluer le taux d'exécution du programme à l'Université de Zinder et procéder au lancement du baccalauréat lundi dans la région. Mamoudou Djibo, ministre des Enseignements supérieurs, est au micro de Zara Boukar.
L'engagement a été pris définitivement pour que dans tous les cas de figure, l'année 2023 soit clôturée au plus tard le 31 juillet 2023. Certaines universités, comme l'Université Abdou Mouné Niamey, avaient même envisagé la perspective de finir le 30 juin. Il y a déjà des universités qui ont complètement terminé l'année, mais pour rendre compte au président de la République, il nous faut évaluer. N'ayons pas que nous n'ayons pas confiance en eux, département par département, filière par filière, semestre par semestre, les niveaux d'exécution. Puisque si nous n'arrivons pas à boucler l'année, c'est que les centres régionaux des universités doivent continuer à fonctionner. Ils doivent continuer à nourrir les étudiants. Or, cela n'a pas été prévu. Et ça va réduire le temps de vacances, le temps de repos aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Donc l'objet premier de cette mission est d'évaluer. Et nous avons prévu avec la direction générale de l'Office du baccalauréat pour venir lancer le bac à Zender.
Parlons santé à présent. Contrairement à certaines femmes des localités du pays, les femmes du quartier Mandjoukouara de la commune urbaine de Dosso n'ont pas de difficultés dans la fréquentation des centres de santé, particulièrement dans le domaine de la planification familiale. Madame Idriss Habiba, responsable de la maternité au sein du centre de santé intégré Mandjoukouara, explique au micro de Hawa Ousmane.
La prise en charge des femmes au niveau de la maternité et à la PF aussi, s'intéresse beaucoup. Avant, il faut qu'on les sensibilise, mais maintenant, vraiment, elles fréquentent le centre. Il y a des nouvelles qui ne connaissent rien concernant la PF, elles viennent. Il y a ceux qui ne sont pas nouvelles aussi. On a vraiment une bonne fréquentation au niveau du centre. Par jour, on peut avoir, c'est plus de 10, des fois, on peut avoir même une vingtaine. Donc, la moindre, on peut avoir entre 15 et 20. Par jour. Vraiment, par rapport aux années antérieures, il y a un grand changement. Parce que maintenant, on n'a aucun problème avec la planification familiale.
Une soixantaine de femmes de la commune rurale de Tagzar qui vivent avec un handicap se sont organisées en groupement pour mener des activités génératrices de revenus. Selon la présidente de ce groupement, ce sont des petits crédits qu'elles s'accordent entre elles qui leur permettent de vivre. Rukaye Larabou, présidente du groupement Wafakei, est au micro de Mamata Dandakoy. Notre groupement est dénommé Wafakei. Et Dieu merci, il nous a été profitable. Actuellement, je viens de l'école et au besoin, je peux emprunter n'importe quelle somme d'argent dans la caisse du groupement. Nous en bénéficions beaucoup à travers des crédits que nous remboursons et nous nous entraidons avec des cotisations à l'occasion des cérémonies et autres événements de la vie. Le groupement a 60 membres que nous avons divisé en deux sous-groupes de 30 femmes pour éviter le pléthore. Je vends des crèmes glacées. S'il y a un mariage dans le quartier, je prête 250 à 350 000 francs CFA de la caisse pour payer l'uniforme que je revends et je rembourse l'argent avec un petit bénéfice que nous avons instauré. Notre groupement est vraiment une entente comme son nom l'indique. Notre motivation est qu'il ne faut pas toujours attendre tout des hommes. La suite de ce journal, 5 mois après la signature d'un accord entre une association des personnes handicapées de Tawa et le CICR, ces personnes commencent à recevoir de l'aide de la part de l'ONG internationale. Cette aide consiste pour ces personnes d'avoir des prothèses pour le bras ou les pieds. Salou Souleymane, président des personnes handicapées de Tawa, est au micro de Idriss Adam.
Le CICR a pris en charge les personnes qui se sont vues amputer la jambe ou le bras. Ils ont demandé de recenser toutes ces personnes. Dès qu'une personne est amputée, il y a un registre dans lequel elle est inscrite. Ils nous appellent de temps en temps pour nous dire d'envoyer 5 personnes par lot. Une seule fois, nous avons envoyé 7 personnes. C'est à Zender que nous les envoyons. Nous avons envoyé 12 personnes. Bientôt, il y aura 5 autres. Il y a les patients de Tawa, de Zender, de Tillabéri. C'est une rotation tour à tour. C'est gratuit. Ils prennent en charge les frais de transport, de restauration. Ils donnent aussi des kits couverture et bouilloire. L'intéressé suit d'abord un apprentissage avant d'être libéré. Le CICR travaille en collaboration avec l'association des handicapés de la région. Nous avons reçu 10 vélos et d'autres seront fabriqués bientôt. Il a été demandé de recenser tous ceux qui veulent bénéficier de vélos, qui sont vraiment handicapés et qui doivent l'utiliser, pas pour déposer à la maison ou le vendre.
Nous restons toujours dans la région de Tawa où 19 cas de lèpre ont été enregistrés dans le département de Koni par une caravane de médecins dermatologues du programme Lèpre sur l'égide de l'ONG Raoul Folero. Cette caravane a effectué une tournée dans 4 centres de santé intégrés du département pour soigner les personnes ayant des maladies de la peau. Fatoumata Salifou, agent technique du programme Lèpre, explique la situation au micro de Asman Moussa Rizika.
CSI.
Nous avons choisi 5 CSI dans la ville de Koni, tels que Tsagnawa, Bazaga, Adebisu, Dosei et le CSI urbain, mais à la case de santé. Partout où nous sommes allés, nous avons détecté des cas de lèpre. Nous avons eu quelques personnes atteintes. Adebisu, nous avons eu 2 personnes, Bazaga, 4 personnes atteintes, Tieraza, 2 personnes, Tsagnawa, 5 cas aussi. Aujourd'hui, nous avons détecté au total 19 personnes atteintes de lèpre et tous les cas détectés sont déjà sous traitement et le traitement est totalement gratuit. Il y a ceux qui seront sous traitement durant 6 mois, certains jusqu'à 12 mois. J'appelle donc ces personnes atteintes sous traitement à prendre ça au sérieux.
Sur demande du Conseil régional de sécurité, tous les membres des conseils communaux de Dindimi et Fulatari sont en formation à Difa sur le rôle et responsabilité dans la prévention et la gestion des conflits. Écoutons Oumar Halod Malam, maire de Dindimi, au micro de Mani Moussa.
Notre conseil a aujourd'hui 2 ans et moins, mais c'est pour la première fois que l'ensemble des conseillers municipaux se retrouvent ici à Difa pour une formation. Nous sommes très satisfaits et nous demandons à Chiga de continuer à former les élus sur d'autres thèmes. Cette formation sera très bénéfique sans nul doute. Déjà, les acteurs concernés sont tous présents. Et les facilitateurs, les formateurs, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le domaine. Donc, nous n'avons pas de doute. Je suis persuadé qu'on va atteindre les objectifs assignés pour cette formation. Donc, grâce à cette formation, les élus seront s'acquitter de leurs tâches. Il y aura beaucoup d'améliorations, je suis persuadé, à travers les thèmes, à travers les formateurs, parce qu'aujourd'hui, c'est tous les conseillers et toutes les conseillères municipaux de notre commune qui sont là et des façons dont ils se sont donnés qu'il y aura une nette amélioration.
Le magazine du journal L'Afrique célèbre ce 16 juin la journée de l'enfant, une occasion de parler des droits des enfants. Au Niger, ces droits sont garantis par la constitution du 25 novembre 2010. L'enfant est un être sacré, il doit jurer des droits pour son épanouissement. Omer Kebiou, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger, explique ces différents droits des enfants au micro de Habiba Ahmed.
Quels sont les principaux droits inaliénables de l'enfant?
Les droits des enfants sont non seulement inaliénables, mais sont des droits humains. Je parle d'abord des principes des droits humains, principe d'égalité, principe de non-discrimination, principe de participation. À cela, il faut ajouter 2 autres principes spécifiques aux droits de l'enfant. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe qui porte sur le droit à la vie, la survie et le développement de l'enfant. Donc ce sont des droits inaliénables, le droit à la non-discrimination, le droit à la protection contre toute forme de violence et de maltraitance, le droit à l'éducation, le droit à la santé de l'enfant, je veux dire pas le droit à la participation, le droit à l'identité, ça c'est important, le droit à la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à une vie familiale pour l'enfant, le droit à la protection contre les conflits armés. Il y a toute une panoplie de droits comme ça, et pour nous, le droit le plus important, le principe le plus important qu'on devait respecter en tout temps et en tout lieu, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'enfant avant tout.
Comment garantir ce droit?
Au niveau du Haut Commissariat, nous menons des actions et nous pensons qu'il faut une approche intégrée, une approche holistique, une approche qui mobilise tous les acteurs, tous conjuguer nos efforts pour protéger l'enfant, parce que l'enfant pour nous c'est un être sacré. Cela passe d'abord par quoi? Par le renforcement du cadre juridique. Il y a un cadre juridique qui est là, donc il y a un système national de protection des droits de l'homme qui existe, mais il faut le renforcer tous les jours pour garantir une meilleure protection de l'enfant. Il faut l'éducation, la sensibilisation. On doit investir dans les services sociaux de base, santé, éducation. On doit lutter contre la pauvreté, lutter contre l'insécurité alimentaire qui frappe les enfants. Donc ce sont des actions que nous pouvons mener ensemble pour prévenir le travail des enfants, prévenir le mariage des enfants. Ah, pour nous c'est dangereux. On fait le plaidoyer auprès des autorités afin qu'il y ait un cadre législatif institutionnel protecteur des enfants pour mettre les enfants à l'abri de toute forme de violence, notamment les mariages forcés. Tout ce que nous faisons, en tout cas, l'enfant est au cœur. Le travail que nous faisons avec l'UNICEF, le travail que nous faisons avec nos agences du système des Nations Unies, le travail d'accompagnement que nous faisons avec le ministère de la promotion de la femme, protection de l'enfant.
En cas de violation de ce droit, quelles sont les voies de recours?
Il y a plusieurs voies de recours, en tout cas. Nous pouvons les diviser en 3 types. Les recours juridictionnels, les recours non juridictionnels et les recours quasi-juridictionnels. Bon, parmi les recours non juridictionnels, nous avons par exemple la société civile, les ONG qui font ce travail-là. Les ONG peuvent faire du plaidoyer, voilà, et tout, attirer l'attention, dénoncer, tout, ça c'est important. On a par exemple le recours administratif, ça peut être devant même le ministère de la promotion de la femme, protection de l'enfant. On a le recours quasi-judiciel, on peut saisir la CNDH, la Commission nationale des droits humains, on peut saisir les cours et tribunaux. On peut aller au niveau international, parce que je le répète, les droits de l'enfant sont des droits constitutionnels au Niger.
C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, restez à l'écoute de nos programmes.